Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile de ce jour est une invitation à méditer quelques instants sur la providence. C'est une vérité bien consolante de notre religion, mais il faut en avoir une idée exacte. Le mot providence vient du latin providere, qui veut dire prévoir, pourvoir. La providence de Dieu, c'est d'abord le plan d'amour de Dieu sur sa création, et c'est tout ce que fait Dieu à chaque instant pour mettre à exécution ce plan, pour conduire sa création au but pour lequel il l'a fait sortir du néant et qui est la manifestation de sa bonté. Le bon Dieu est comme un bon père de famille qui prévoit et qui pourvoit à toute chose pour que rien ne manque à sa famille. La Sainte Écriture est très claire là-dessus, dès l'Ancien Testament. Ainsi le livre de la Sagesse. Dieu est le créateur des grands et des petits, et il prend soin de toute chose. Sa sagesse atteint avec force d'une extrémité du monde à l'autre, et elle dispose tout avec douceur. Et encore cette prière au bon Dieu dans le livre d'Esther. Toutes choses, ô Dieu, sont soumises à votre providence, toutes choses. Et il n'est personne qui puisse faire obstacle à votre volonté. De ces paroles inspirées par le Saint-Esprit, on peut déjà conclure que la providence divine est universelle, elle embrasse toutes choses. Et elle est infaillible. D'ailleurs, si quelque chose pouvait échapper à Dieu, il ne serait plus tout-puissant. Il ne serait plus Dieu. Évidemment, plusieurs questions se posent ici et peuvent parfois nous être faites. D'abord, si rien ne peut échapper à la toute-puissance divine, et s'il gouverne toute chose par sa bonté, alors comment se fait-il qu'il y ait le mal dans le monde, que ce soit le mal physique de la maladie et le mal moral du péché? Eh bien, c'est parce que Dieu a laissé à sa créature raisonnable, à l'ange et à l'homme, la possibilité de se dérober à son plan d'amour, donc de péché. Quant à la maladie et à la mort, elles sont entrées dans le monde par le péché d'Adam, vous le savez. Ce n'est pas le bon Dieu qui les a introduits dans le monde. Mais rien de cela ne détruit le plan de Dieu. Écoutons saint Augustin. Le Dieu Tout-Puissant n'aurait jamais permis que le mal existe dans son œuvre s'il n'était assez puissant et assez bon pour tirer le bien même du mal. Alors Dieu permet toutes les tribulations qui peuvent arriver aux hommes, d'abord pour les punir de leurs péchés, ça ne s'oppose pas à sa bonté. Un bon père de famille sait punir ses enfants pour leur bien. Mais le bon Dieu permet aussi les tribulations de cette terre pour éprouver les hommes, comme on éprouve l'or dans la fournaise, et pour faire ainsi grandir leur vertu. Et dans notre vie personnelle, il peut même permettre certains péchés, certaines chutes, qui restent des péchés, qui restent des chutes et dont nous sommes coupables, mais que le bon Dieu peut permettre pour que nous restions dans l'humilité, pour que nous soyons plus vigilants à l'avenir, pour nous éviter de tomber dans des fautes encore plus graves. Ça nous fait une secousse, on fera plus attention la prochaine fois. Il y a ici un beau petit livre très encourageant que vous pourrez trouver à la sortie, « L'art d'utiliser ses fautes » d'après saint François de Sales. C'est une petite merveille. Nous avons aussi mis le beau livre du père Garrigou Lagrange, « La providence et la confiance en Dieu ». Bien sûr, si les voies de la providence sont très claires à certains moments dans la vie des pays et dans notre vie, regardons un peu en arrière dans notre vie, c'est évident, d'autres fois, bien sûr, les voies de la providence sont totalement obscures, en particulier en ce qui concerne le mystère de la croix dans notre vie. Alors, dans ces moments-là, c'est un esprit de foi supérieur auquel le bon Dieu nous appelle, mais nous en reparlerons dans quelques instants. Une autre question se pose. Si Dieu a prévu et gouverne toutes choses dans les moindres détails, alors à quoi servent nos prières, et spécialement nos prières de demande? Tout est écrit, alors il n'y a rien à demander. Eh bien, justement, dans sa providence, Dieu a prévu de toute éternité qu'il ne nous accorderait certaines choses qu'à nos prières. Et après un certain temps de prière, et si nous ne les faisons pas, nous n'aurons pas. Le bon Dieu nous aurait donné, mais il ne nous donne pas. Alors il faut donc d'abord prier pour notre propre salut. Cette prière-là est infaillible, si elle est faite avec piété et persévérance. Prions pour notre salut, nous serons sauvés. Ensuite, prier bien sûr pour le salut de notre prochain, c'est la charité. Cette prière-là n'est pas infaillible parce que le prochain peut mettre un obstacle à la grâce, il peut refuser de se convertir. Mais si nous insistons dans nos prières, si nous faisons des sacrifices, à la longue, nous finirons par obtenir que l'obstacle soit levé et que notre prochain soit sauvé. Il ne faut jamais se décourager dans ce genre de prière. Bien sûr, nous pouvons aussi prier pour obtenir la santé, ou au moins une meilleure santé, ou des biens matériels. Mais tout cela ne nous sera accordé que s'ils sont utiles ou nécessaires à notre salut. Le bon Dieu sait, même là, ce qui est bon pour nous. Comme nous-mêmes, nous n'accordons pas, un père de famille n'accorde pas forcément à ses enfants tout ce qu'il lui demande. Demandons-nous maintenant quelle doit être notre conduite à l'égard de la providence. Alors ici, il y a deux erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, et la vérité qui est au-dessus, qui les domine, qui est comme une crête au milieu de deux précipices. Le premier précipice, c'est une erreur par excès, une conception exagérée de la providence, qui est due à une lecture trop rapide de l'évangile d'aujourd'hui, ou du moins on n'a pas été jusqu'au bout. Bien sûr que notre Seigneur remarque que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et qu'ils n'amassent point dans les greniers et que c'est notre Père du ciel qui les nourrit. Mais nous ne sommes pas des oiseaux. Et ne prenons pas prétexte de ces paroles pour entretenir notre paresse spirituelle, pour négliger nos devoirs. Est-ce que ce n'est pas se moquer du bon Dieu que d'aller ensuite le chercher pour faire à notre place le travail que nous n'avons pas fait par paresse? Alors par paresse, on n'a pas fait ce qu'il faudrait faire, après on fait des neuvaines. Bah oui, c'est gentil, mais enfin, il aurait peut-être mieux valu d'abord faire notre travail et accomplir nos devoirs. L'erreur opposée, c'est une erreur par défaut. Cette fois, c'est un manque d'esprit de foi qui fait qu'on s'agite et qu'on s'inquiète comme si Dieu n'existait pas, ou du moins comme s'il était tellement éloigné qu'il ne pouvait pas nous aider, qu'il ne conduisait pas notre vie par sa providence. Dans toutes nos actions, nous sommes les coopérateurs du gouvernement de Dieu. Alors, il faut donc mettre Dieu dans toutes nos actions. Ne pas s'agiter et s'inquiéter comme s'il n'y avait que nous tout seuls en face des événements. La vérité domine ces deux erreurs et elle se résume en deux mots qui peuvent devenir notre devise, la devise de notre vie, fidélité et abandon. Ou encore ce beau proverbe ancien, fais ce que doit, advienne que pourra. Notre Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, ne dit pas qu'il ne faut rien faire. Il dit qu'à la foi, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et pensons que la justice, c'est la vertu qui nous fait accomplir tous nos devoirs. Donc chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, donc accomplir généreusement tous nos devoirs, et en même temps, pour la suite, ne pas s'inquiéter. Le bon Dieu s'en occupe et il ne nous abandonnera jamais. Notre vie, c'est parfois lorsqu'on marche dans le brouillard. Dans le brouillard, des fois, on ne voit pas à quelques mètres devant, on ne voit rien. Mais on voit toujours suffisamment pour mettre un pas devant l'autre. Eh bien, c'est pareil ici. À chaque instant, notre Seigneur nous donne suffisamment de lumière pour connaître ce qu'il attend de nous à cet instant précis. Sa volonté du moment présent, volonté qui est toujours pour notre bien parce que sa volonté c'est son amour et nous avons du mal à le comprendre. Et en même temps, notre Seigneur nous donne les grâces suffisantes et efficaces pour accomplir cette volonté. Et ici, c'est la fidélité qui nous est demandée, la fidélité à la volonté de notre Seigneur du moment présent. Et pour la suite, dans la mesure où nous lui sommes fidèles à tout instant, il nous dit « Fais-moi confiance, je m'occupe de tout ». Et c'est ici qu'a lieu l'abandon. Mais un abandon qui ne peut se légitimer et qui ne sera couronné de succès que si nous nous efforçons d'être fidèles à cette volonté de notre Seigneur du moment présent. Et ce tandem, si on peut l'appeler ainsi, ce tandem fidélité-abandon, peut et doit être pratiqué dans toutes les circonstances de la vie. C'est la route qui conduit au ciel. Marchons sur cette route pas après pas en accomplissant notre devoir quotidien. Dans toutes les circonstances de la vie, que nous soyons en bonne santé ou que nous soyons malades, dans les joies, mais aussi dans les souffrances qui nous viennent des autres hommes, ou dans les souffrances qui viennent de nos propres fautes, de nos imprudences, de nos faiblesses. Continuons notre route, coûte que coûte, attachés à cette volonté de notre Seigneur du moment présent, et nous sortirons toujours du tunnel. Bien sûr, cette règle de vie ne peut se pratiquer que dans un esprit de foi, de confiance et d'amour. Esprit de foi pour voir dans l'accomplissement fidèle de tous nos devoirs le moyen d'avancer jour après jour vers notre salut, le moyen de travailler au salut de nos proches, d'obtenir des grâces pour notre pays, pour l'Église, pour le salut des âmes. Esprit de foi. Confiance ensuite, quels que soient les événements, confiance inébranlable dans la bonté de Dieu, confiance inébranlable dans la bonté de Dieu, qui ne peut permettre que pour notre bien les différents événements de notre vie, même si le plan de Dieu nous est pour le moment obscur. Continuons à marcher en toute confiance. Enfin, amour. Il s'agit bien sûr ici de la vertu théologale de charité qui vient sur notre volonté pour qu'elle ne fasse plus qu'un avec la volonté de notre Seigneur. Ici, l'âme eh bien, se livre tout entière à la volonté de Dieu à chaque instant. Alors, elle en est spécialement récompensée. Notre Seigneur aime ces âmes qui lui font confiance à ce point. Nous devons être un petit peu, avoir la confiance comme la confiance du petit enfant à l'égard de ses parents. Et notre Seigneur nous dit qu'il faut redevenir, sur le plan spirituel, comme de petits enfants. Lorsqu'une âme s'engage dans cette voie de fidélité et d'abandon par amour de notre Seigneur, eh bien, elle ne tarde pas à être récompensée par une assistance spéciale de la Providence à son égard. Par les dons du Saint-Esprit, elle reçoit des lumières spéciales pour la guider, jour après jour, même au milieu des plus grandes obscurités de la vie. Notre Seigneur vient à leur secours dans toutes les épreuves. Et enfin, ces âmes reçoivent de nouvelles infusions de la grâce, des vertus et des dons du Saint-Esprit. Cette doctrine est si importante qu'elle est la recommandation essentielle de Notre-Dame de Fatima pour traverser les épreuves des temps actuels. L'offrande à son cœur immaculé des sacrifices de nos devoirs quotidiens pour la réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. Notre Seigneur dira même à sœur Lucie que c'est la pénitence qu'il demande et qu'il exige pour notre salut. Alors mettons-la en pratique et demandons cette grâce au cours de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.